La parole de Dieu déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'homme de se lever devant son Créateur, de lui exprimer ses sentiments. Un temps pour l'homme d'entrer dans sa présence et de s'y attarder. Il y a aussi un temps où l'homme doit s'asseoir dans une attitude de docilité, attentionnée, dans une attitude de révérence et de respect envers celui qui est là devant lui. Un temps où l'homme doit faire taire toute voix, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne de l'extérieur, qu'elle vienne de l'intérieur, c'est-à-dire la voix de sa conscience. L'homme doit faire taire toute sa voix et rester concentré sur son Créateur afin de recevoir de lui sa parole. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, après avoir chanté, loué le Seigneur, après nous être attardés avec confiance, avec sérénité, avec foi en sa présence, te réjouis devant sa face. Nous voulons maintenant lui demander de nous parler humblement, de déposer dans nos cœurs quelque chose qui va bouleverser notre vie, quelque chose qui va apporter plus qu'une plus-value à notre existence, quelque chose qui va, eh bien, nous métamorphoser, qui va permettre à son œuvre, eh bien, de croître. Pour cela, demandons-lui simplement, par une prière de foi, en disant, Seigneur, parle-moi maintenant. Seigneur, pose ta main sur ton serviteur et qu'il ne soit qu'une simple bouche parmi tant d'autres pour nous parler de ta part. Parle-nous. Seigneur, après ce temps, passe en présence à t'exprimer nos sentiments. Seigneur, à te faire connaître les paroles de nos bouches. Après ce temps où nous nous sommes tenus devant toi, nous appuyant sur l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha, Seigneur, pour te louer, t'adorer, pour Seigneur, t'encenser avec nos prières de louange, d'adoration, de reconnaissance, nous voulons maintenant, oh Seigneur, te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Nous voulons que ta parole ce matin soit une parole, ô Dieu, qui va contribuer, Seigneur, à notre croissance, tous azimuts, Seigneur, que ta parole, ô Dieu, puisse permettre à ton œuvre dans chacun de nous, eh bien, de croître, ainsi, ô Dieu, de nous faire ressembler à toi en toutes choses, car tel est le but pour lequel tu parles à l'homme. C'est pour que l'homme apprenne, Seigneur, à recevoir ta pensée, apprenne, ô Dieu, à recevoir ce qui vient de toi, à l'intégrer à sa vie, afin que sa vie, ô Dieu, devienne une vie à la gloire et à la louange de ton nom. Bénis ton serviteur, ce n'est qu'un canal, avec ses imperfections, ses faiblesses, ses limites. Seigneur, bénis-le, ô Dieu, donne-lui toute la grâce, toute l'onction dont il a besoin pour pouvoir proclamer tes oracles avec assurance, dans un esprit de persuasion et de conviction, Seigneur, arrose-nous de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, j'aimerais revenir ce matin sur le passage qui a fait déjà l'objet de notre méditation le dimanche dernier, à savoir la valeur du juste. Et voir à partir du portrait que la Bible nous dépeint de ce qu'est la vie d'un juste, du moins dans le livre de Psaumes, et à partir de là, essayer de voir combien, mes amis, nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur, et ce, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre condition intellectuelle, quelle que soit notre culture, bien dès lors que nous sommes en Christ, dès lors que nous nous sommes réconciliés avec lui, eh bien, où que nous soyons, nous devrions toujours être conscients que c'est par nous, au travers de nous, que Dieu va s'exprimer sur cette terre. C'est toujours par et au travers de nous que Dieu va manifester son influence sur cette terre. En d'autres mots, en tant que juste, comme nous l'avons souligné la fois dernière, nous sommes une portion du ciel sur cette terre. Alléluia. Où que nous soyons, Eh bien, la présence de Dieu étant en nous, nous sommes appelés alors à devenir, eh bien, des bénédictions, pour utiliser l'expression chère au pape catholique, des bénédictions urbi et torbi, c'est-à-dire des bénédictions et pour la ville et pour le monde. Nous sommes dans le psaume 73, 73. Nous allons lire donc à partir du premier verset. Psaume 73, 73, nous lisons. Oui, comme je le soulignais en semaine, le mercredi, ce qui est bien avec Asaph dans ce psaume, c'est qu'il commence par une affirmation extraordinaire. Oui, donc il n'y a rien à redire. Oui, alléluia. C'est évident, c'est normal, c'est juste. Oui, Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, ajoute le psalmiste, pour un peu mes pieds allaient fléchir, ça n'est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse, les imaginations de leur cœur dépassent la mesure, grandiloquent, hein, d'autres mots. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils parlent haut, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Verset 12. Ainsi sont donc les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tous les jours, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Verset 23, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de proclamer toutes ses œuvres. Gloire au Seigneur. Alléluia. La valeur du juste. Nous l'avons vu en introduction le dimanche dernier, qu'il y a des hommes sur cette terre qui ont été déclarés justes, simplement parce que par leur bravoure, par leur héroïsme, par leur générosité, leur humanité, eh bien, ils sont arrivés, et ce, au péril de leur vie, à soustraire aux mains des nazis, des juifs, leur faisant ainsi échapper de la mort. Ces hommes, donc, ont marqué l'histoire par ces actes qu'ils ont posés au péril de leur vie. Et pour les gratifier, pour leur rendre hommage, pour les honorer, quelque part, l'État d'Israël a donc créé, depuis les années 50, sur un décret du Parlement, eh bien, un ordre qu'on appelle les justes parmi les nations, ou les justes des nations, ces hommes et ces femmes, donc, qui avaient pris le risque de sauver les Juifs des griffes de ces prédateurs nazis. Et ces gens reçoivent, au cours d'une cérémonie, une médaille, des honneurs, et désormais, vis-à-vis de l'État d'Israël, à cause des actes posés, ces gens sont donc appelés des justes. Et à partir de cette médaille de distinction, eh bien, dont la plupart brandissent du reste fièrement, eh bien, ces gens savent qu'ils ont rendu un service à l'humanité, qu'ils ont rendu service à la communauté juive. Donc, ils ont été déclarés juste parce qu'ils ont posé des actes. Voyez-vous? Ça, c'est aux yeux des hommes. Nous pouvons paraître justes parce que nous posons des actes que les uns et les autres pourraient appeler des actes de justice. Mais qu'en est-il, mes amis, aux yeux de Dieu? Nous l'avons vu. Aux yeux de Dieu, personne ne peut être rendu juste simplement à partir de sa vie marquée par les bonnes œuvres. Il n'y a aucune œuvre qu'un homme puisse faire qui puisse amener Dieu à le déclarer juste. La parole de Dieu est claire. Tous, absolument tous, ont péché. Et par conséquent, tous, absolument tous, sont donc privés de la gloire, de la présence de Dieu. Voilà, mes amis, le sort de l'humanité. Voilà l'état de l'humanité sur le plan moral et sur le plan spirituel. Tous injustes aux yeux de Dieu. Tous sous sa condamnation, de par notre conception dans le sein maternel, de par notre naissance, de par notre vie de péché, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que d'endurer la justice parfaite de Dieu. Mais ce Dieu-là est amour, voyez-vous. Eh bien, il a donné à l'homme l'occasion de devenir juste à ses yeux, c'est-à-dire aux yeux du Seigneur. Voilà pourquoi Christ est venu sur cette terre. Et par sa mort, il a ouvert la voie, mes amis, de la justice de Dieu à tous les pécheurs, quels qu'ils soient, tous ceux qui se lèveront pour croire en lui, pour mettre toute leur confiance dans l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, eh bien, ceux-là, la parole de Dieu les déclare justes. Alléluia. C'est donc une position que nous avons de par notre appartenance à Jésus-Christ. Quand nous parlons de juste, nous parlons d'abord et avant tout d'un état. L'état d'un homme ou d'une femme qui, après avoir reconnu sa culpabilité aux yeux de Dieu, après avoir réalisé son besoin de salut, après avoir compris que ce salut, il ne peut l'expérimenter qu'au travers d'une expérience personnelle avec Jésus, cet homme-là reçoit Jésus. À partir de ce moment-là, cet homme ou cette femme devient juste aux yeux de Dieu. De par sa démarche de réconciliation avec Dieu, en s'appuyant sur la personne de Jésus-Christ et sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du calvaire, Dieu déclare cet homme-là juste. Amen. C'est d'abord et avant tout un état. Mais cet état, je dirais, est un état minima. En d'autres mots, c'est le premier état. Voyez-vous? Nous avons été rendus justes. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions manifester notre dignité de juste. Alléluia. En d'autres mots, il ne suffit pas simplement d'être déclaré juste aux yeux de Dieu. Mais il s'agit encore de manifester cette dignité, cette vocation de juste en marchant selon les actes de justice de Dieu. Là, notre vie atteindra, ou du moins, cet état atteindra son niveau optimal ou maximal. Il y a donc un niveau, je dirais, minimal, c'est le fait d'être réconcilié avec Dieu, d'être dans un état où Dieu nous reconnaît comme étant de juste. Mais étant juste, Dieu attend que nous puissions manifester cette qualité-là. Car c'est lorsque nous manifestons, c'est lorsque nous vivons cette vocation, cette dignité, cet état de juste, mes amis, qu'alors nous devenons de véritables bénédictions, d'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, nous l'avons vu. L'auteur inspiré nous dépeint là un portrait, évidemment parmi tant d'autres portraits, mais celui qui nous intéresse c'est celui-là, qui d'ailleurs est très représentatif, le portrait du juste, d'un homme qui s'est réconcilié avec Dieu, d'un homme qui a pris la résolution de mener sa vie, non pas en marchant au gré de ses pensées, non pas en s'inspirant de telle ou telle autre philosophie à la mode, mais plutôt un homme qui a pris la résolution de marcher selon les prescrits de la parole de Dieu. Alléluia. Un homme qui a fait le choix de conduire sa vie en s'appuyant sur Dieu, en marchant selon la parole de Dieu. Cet homme-là a fait des choix en amont. Et ces choix-là vont avoir des conséquences en aval. Voyez-vous? Et dans ce récit, nous avons donc là, en opposition, deux portraits. D'une part, le portrait, l'image du méchant, c'est-à-dire de l'homme qui vit au gré de ses pensées, comme je le soulignais, qui n'a rien à cirer, passez-moi l'expression, avec Dieu, un homme qui marche indépendamment de la volonté de Dieu. Voyez-vous, et je vous dirais que la quasi-totalité de l'humanité, eh bien, vit, mène une vie autonome, indépendante, de gens qui vivent, qui mènent une vie d'électron libre vis-à-vis du Seigneur. Ceux-là, la Bible les appelle des méchants. Des méchants, c'est-à-dire des gens qui ne tiennent pas compte de Dieu. Quel est le portrait que la parole de Dieu nous dresse de ce genre de personnes qui n'ont pas rencontré le Seigneur ou qui lui ont tourné le dos alors que Dieu les a appelés? Eh bien, c'est un portrait qui est là, qui est clair. Et par rapport à ce portrait, que voyons-nous? Que trouvons-nous par rapport à ça? Eh bien, il nous est dit que ces méchants, malgré le choix qu'ils ont fait de ne pas tenir compte de Dieu dans leur vie, ils prospèrent matériellement parlant, oui ou non? C'est la Bible qui le dit, hein? Voyez? Ces gens-là, malgré leur méchanceté, ils ont des visages qui reflètent le bonheur temporel. Voyez-vous? Ce sont des gens qui ne sont pas tourmentés, dans la plupart des cas, qui jouissent de bonne santé, et eh bien, qui ont des moyens, leur richesse s'accroisse. C'est la Bible qui le dit, hein. Ce sont des méchants. Je l'ai dit parce que je voudrais que nous comprenions une chose. Ils ne font jamais lier la prospérité matérielle à l'état de sainteté d'un homme. On n'a pas besoin de Dieu pour prospérer matériellement. Voyez-vous, il y a des gens qui maîtrisent très bien le domaine ou le milieu de la finance. Voyez-vous, qui savent où placer l'argent pour avoir en retour beaucoup de bénéfices. Il y a des gens qui maîtrisent les règles de l'économie, qui investissent, pas de manière irrationnelle. Hein. On ferme les yeux, on va jeûner 40 jours. Dieu va nous dire où nous allons placer l'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si ça fonctionnait ainsi, hein, je peux vous assurer que nos pays seraient les pays les plus avancés. C'est une question d'intelligence. L'économie, c'est une science qui est régie par des règles, oui ou non? Vous venez, oui, on va jeûner 40 jours. Vous pensez en jeûnant 40 jours, eh bien, toutes les règles de l'économie vont venir et s'installer là, et puis après, tout d'un coup, comme par enchantement, les affaires commencent à prospérer, les gens se lèvent et disent, c'est formidable. Formidable. Eh bien, tout d'un coup, eh bien, j'ai les affaires, 6 mois après, j'ai 15 millions de dollars de bénéfices. Attention. Nous devons combattre ce genre d'enseignement. Ça pousse les gens à la paresse. Ça fait de la prière une force magique. Et ça fait de Dieu un objet, un outil dont on peut se servir. Dieu devient comme une truelle. Hein. On veut construire, tiens, viens. Je mets. Ouais, non, pas du tout, mes amis. Dieu reste Dieu. Ce n'est pas à nous de l'amener là où nous sommes. De lui dire, tiens, viens, comme un garçon de course à qui on donnerait des injonctions. Pas du tout. Respectons Dieu. Il tient nos vies dans sa main. C'est à nous d'aller là où il est. Et de faire non pas ce que nous aurions aimé qu'il fasse, mais de faire ce que lui veut que nous fassions. Et ce qu'il veut que nous fassions ne se trouve pas dans un livre magique, un livre ésotérique, caché quelque part, qui demanderait des séances d'initiation un peu mystiques. Pas du tout. Tout est dans la Bible. Alléluia. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à gloire à Dieu. Les méchants prospèrent. Les méchants, et même d'ailleurs dans notre ville de Kinshasa, je peux vous dire que la fortune est concentrée entre les mains qui n'ont rien à voir avec Dieu. Pendant que nous sommes ici, il y en a là, ils sont avec, devant leur verre de whisky. Il y en a qui pensent comment ils vont escroquer. Et ils arrivent hein, à escroquer les gens, à voler, etc. Et ils voient leurs affaires prospérer. Cette image a tellement interpellé l'homme de Dieu qu'il est même arrivé à se dire, mais alors ça sert à quoi? Ça sert à quoi de m'imposer autant de disciplines pour rester dans la volonté de Dieu? Ça sert à quoi de faire tous ces sacrifices pour plaire à Dieu Alors même que ma santé est de plus en plus défaillante. Alors même que sur le plan matériel et financier, eh bien, c'est le désert. Alors même que je suis de plus en plus entouré par toutes sortes de prédateurs, toujours prêts à me faire du mal, ça sert à quoi? Eh bien, le psalmiste est passé par cette crise-là, où il a commencé à envier le méchant. Voyez-vous? Alléluia! Vous êtes toujours avec moi. Gloire à Dieu. Il a commencé à envier le méchant. Il dit, mais c'est en vain que je me suis purifié. C'est en vain que je marche selon le prétexte de Dieu. Parce que, après tout, il n'y a rien qui va pour moi. Quand je regarde à côté de moi, tous ces méchants, ils prospèrent. Rien ne les tourmente. Ils ont une énergie débordante. Voyez-vous, la bonne santé est leur partage. Une santé d'acier ou de fer. Alors que la mienne est... Pour peu qu'il y ait j'attrape un coup de froid, c'est fini, je commence à tousser. Pour peu qu'un moustique passe par là, mais cajole un tout petit peu, c'est la malaria, 3+. Donc, eh oui, attention. Laissons la parole de Dieu façonner notre conception de choses. Approchons les choses, la réalité, quelle qu'elle soit, à partir de la parole de Dieu. Alors nous pourrions comprendre. C'est ce que le psalmiste a fait. Il le dit lui-même. J'ai cherché de comprendre. J'ai mené ma réflexion pour essayer de comprendre pourquoi cela arrive jusqu'au jour où je suis entré dans la présence de Dieu. Là, mes yeux se sont ouverts. Là, j'ai réalisé que cette prospérité matérielle, qui dans la plupart des cas, eh bien, est le résultat d'une vie dissolue, corrompue, eh bien, cette prospérité n'est qu'éphémère. Et le bénéfice qu'on en tire n'est que folie, vaisani. Voyez-vous? Et là, il dit, ah, je comprends. Et il arrive à la conclusion. C'est ce que nous avons lu, le dernier verset. Pour moi, m'approcher de Dieu est... Il n'y a pas de plus grand bien qui demeure en dehors du Seigneur Dieu de la Bible. Nous devrions faire de lui notre bien précieux, où que nous soyons, voyez-vous, eh bien, que nous sachions que celui qui est avec nous est celui qui tient tout le Congo dans sa main. Celui qui est avec nous est celui qui tient le continent africain dans sa main, qui contient, il tient tout l'univers dans sa main. Et quand on est avec celui-là, eh bien, on a toutes les raisons, et du ciel, et de la terre, et de Mars, et de Jupiter. Nous avons toutes les raisons, eh bien, de lui faire confiance. Alléluia. Car en lui, nous sommes devenus des justes. Et étant de justes, nous avons alors un rôle à jouer. Même si le monde ne reconnaît pas notre valeur. Ce n'est pas étonnant, mes amis. C'est pourquoi ne cherchons pas à ce que le monde nous reconnaisse comme étant les grands prédicateurs, les grands prophètes. C'est ce qui pousse les gens au mensonge. C'est ce qui amène les gens à mettre sur pied des pratiques bizarroïdes, spirituelles, pour que le monde voit et dise, ah, ils ont la puissance, hein. Alors, pour arriver à ça, ils ont cette approche machiavélique. Passez-moi l'expression. Voyez? La fin justifie les moyens. Pour amener les gens à dire que je suis un grand pasteur, alors je suis prêt à me compromettre. À manipuler les gens. On ferme les yeux. Maman, Dieu m'a dit ceci. N'est-ce pas? Oh, acclamé. Oh, comme pour être reconnu, nous ne devons jamais chercher la reconnaissance du monde. Pourquoi? Le monde a ses normes. Le monde a son standard. À partir duquel il évalue toute chose. Mais nous, faisant partie du royaume de Dieu, nous devons marcher selon le standard de Dieu. Nous avons une certaine manière de voir les choses, eh bien, qui nous vient de Dieu. Et lorsqu'on met les lunettes, les collyres spirituelles, on peut voir comme Dieu voit. Et quand il est entré dans la présence du Seigneur, là il s'est rendu compte que malgré cette prospérité apparente, malgré cet accroissement de biens, de richesses, eh bien, le méchant se trouve sur une pente qui conduit tout droit vers la mort et la ruine éternelle. Et que la chose la plus extraordinaire, la chose la plus précieuse, c'est avoir Dieu comme trésor. C'est avoir Dieu comme banquier. C'est avoir Dieu comme protecteur. C'est avoir Dieu comme bienfaiteur. C'est avoir Dieu comme soutien. C'est avoir Dieu comme assistant. Donc, bref, il a compris cela. Il est arrivé à la conclusion que pour moi, Seigneur, m'approcher de toi est mon seul bien. Donc, ce juste-là est devenu, mes amis, une bénédiction. Nous l'avons vu. C'est par la bénédiction, par la bouche du juste, que la ville est bénie. Alléluia. Nous l'avons vu à partir des proverbes. Lorsque les justes sont heureux, eh bien la ville exulte. La ville se réjouit. Alléluia. Ça, c'est le secret. Si nous voulons apporter la vraie joie dans notre ville de Kinshasa, si nous voulons que les gens vivent normalement, eh bien nous devrions tout faire pour que chacun de nous vive sa vocation de juste. Ne se contente pas simplement d'être juste parce qu'il est en Christ. Voyez-vous, c'est comme l'électricité. Nous jouissons des bienfaits de l'électricité. Là, vous voyez, il y a la lumière, vous avez l'écran avec le vidéoprojecteur, vous entendez ma voix à partir de ce micro extraordinaire, de ce baffle qui amplifie le son, etc. Tout cela, pourquoi? Parce qu'il y a l'électricité, n'est-ce pas? Mais si maintenant nous coupons tout, bien que l'électricité soit à l'arrivée, si on coupe, il n'y aurait rien, mes amis. Voyez-vous? Alors, il en est de même de nous. Nous sommes juste, certes, mais nous devons manifester notre dignité, notre qualité, notre vocation de juste. C'est lorsque nous le manifestons que nous devenons une bénédiction pour la ville. Alléluia. Qu'alors, tout autour de nous, mes amis, nous allons répandre la vraie joie. Nous allons répandre, eh bien, susciter auprès de nos contemporains le goût de la vie. Alors que dans notre monde, en particulier dans les sociétés occidentales, l'heure est à la dépression et au suicide. Les gens ne savent plus quoi faire, voyez-vous. Ne sachant plus quoi faire, ben la plupart optent pour le suicide, voyez-vous. Donc les gens n'ont plus le sens du sacré. L'existence est banalisée, voyez-vous. Évidemment, tout ça est une des conséquences, je dirais, logiques d'avoir accepté toutes ces thèses évolutionnistes, etc., qui présentent l'homme comme étant un macaque évolué, ou un babouin, ou un bonobo amélioré. Et maintenant, les gens se comportent comme des bonobos dans la société, et les gens sont étonnés. Non, ne vous étonnez pas. Le bonobo reste bonobo. À l'Équateur, vous le verrez. Il est bonobo. Il ne se soucie de rien. Pour lui, son état, qu'il soit en costume d'Ève, ou en costume d'Adam, ça lui dit absolument. Et aujourd'hui, il y en a qui trouvent normal de se balader nu. On les appelle de naturistes. Incroyable. Vous voyez, on a atteint un certain niveau, au niveau de la civilisation. Pour le moment, nous avons pris la pente qui nous conduit tout droit vers, mes amis, la mort et la ruine. Voyez-vous, la dégénérescence morale, la décrépitude morale. Voyez-vous, eh bien, l'homme est de plus en plus présenté comme étant le cousin d'un Mousselekété, un lézard. Le Jéco et le lézard auraient le même oncle. Voilà. Quand quelqu'un vous lui rabâchez les oreilles tout le temps avec ce genre de choses, ça ne serait pas étonnant qu'il se mette à vivre comme un Jéco. C'est pas étonnant. Voyez-vous, l'homme finit par devenir ce qu'il pense. N'oubliez jamais, c'est à cela que la philosophie travaille. La philosophie travaille au niveau de la pensée. Voyez-vous? Et l'homme s'ouvre à toutes sortes de modes de pensée, à toutes sortes de modes de réflexion, qui toutes ont un dénominateur commun, rejeter Dieu. Se passer du créationnisme, du fait qu'il y a eu un créateur. Non, tout ça, c'est le produit du hasard. Personne ne peut nous dire comment le Mousselekété un jour, la queue est partie, et puis, mais il y a d'autres qui sont restés Mousselekété. Excusez-moi, les lézards. Ça sonne peut-être mieux à Lingala, Mousselekété. Donc, voyez-vous, mais nous devons vivre cette vie de juste. Kinshasa a besoin d'hommes et de femmes qui non seulement sont justes de par leur position en Christ, parce qu'ils se sont réconciliés avec Dieu, par et au travers de Jésus, mais Kinshasa a plus besoin d'hommes et de femmes qui, tout en étant justes, vivent et mènent une vie qui manifeste la justice de Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons vivre notre qualité de juste. C'est alors que nous devenons une bénédiction. C'est alors que cette parole de Proverbe va s'accomplir. Celle qui dit, quand les justes sont heureux, quand les justes, mes amis, eh bien, sont dans la joie, eh bien, la conséquence, c'est que la ville exulte. La ville se réjouit. Alléluia. Et nous devrions, mes amis, si nous nous soucions de notre ville de Kinshasa, si nous nous soucions de notre pays, la RDC, si nous nous soucions d'autres pays, mes amis du monde, sur lesquels nous vivons, si nous avons à cœur de voir nos nations se tourner vers Dieu, eh bien être de bénédiction, nous devrions commencer par nous-mêmes. Car c'est beaucoup plus facile de voir ce que l'autre n'a pas fait comme devoir, en oubliant ce que toi-même, tu n'as pas fait comme devoir. Voyez? Dans notre monde, nous avons des gens qui se sont spécialisés dans le jugement personnel. Ils ont toujours des leçons à donner aux gens. Voyez-vous? Ah non, on aurait dû faire ceci. Voyez. Vous savez, nous sommes encore sur terre. À chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, eh bien, il entraîne toujours dans son sillage quelque chose de mauvais. Puisque nous sommes sur terre, il n'y a qu'au ciel où il n'y aura plus rien. Vous voyez? Avec Internet, les gens peuvent accéder à beaucoup de choses, à la connaissance. On peut suivre des émissions sur la santé, on peut suivre des émissions sur l'économie, etc. Alors, il y en a qui pensent que quand on a suivi un débat à la télévision, un débat politique et tout ça, on a entendu l'un et l'autre en train d'argumenter, eh bien, on prend juste un argument, on pense qu'on devient spécialiste de la politique. Vous voyez? Ou spécialiste de la chose publique. Ah non, non, moi je trouve que c'est pas comme ça. C'est bien, mais ce que Dieu attend de toi, fais ta part. Qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Il faut pas attendre d'être le président de la République, premier ministre, pour enfin dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour le pays? C'est maintenant. Si tu es juste, Dieu attend que tu manifestes ta qualité de juste là où tu es. Dans ton entreprise, dans ton école, dans ton travail, dans ta famille. Voyez-vous? Quelquefois, nous souffrons d'une vision mégalomaniaque. On voit toujours grand. Voyez? Il y a des rêveurs. C'est bien, nous devons rêver. Les réalités d'aujourd'hui, dans pratiquement toutes les disciplines scientifiques, que ce soit en médecine, que ce soit en mécanique, en électricité, bref, tout ce que nous avons et nous vivons aujourd'hui, eh bien, était des rêves d'hier. Oui ou non? Eh oui, les gens ont rêvé un jour de voler comme un avion. C'était un rêve. Il y a des tentatives qui ont été faites, des gens sont morts, mais les gens ont persévéré aujourd'hui, nous pouvons prendre l'avion. Oui ou non? Eh bien, ce qui était des rêves hier sont devenus des réalités aujourd'hui. Donc, il est permis de rêver, mon frère. Je parle d'un rêve comme vision de la vie, pas dormir. Bon, vous pouvez. Nous rêvons tous les jours. Voyez? Mais nous devons faire attention que ce rêve ne se transforme pas en cauchemar. Ou alors que nous devenons simplement des spécialistes de rêves. Il y a des gens qui ne font que rêver. Dans leur lit, ils rêvent d'un Congo émergent, ayant dépassé l'Afrique du Sud, économiquement parlant, socialement parlant, ayant laissé le Nigeria derrière. Un Congo, on verrait Kinshasa, là. Oh, dans le rêve de beaucoup, c'est Paris 10 fois. On peut rêver de ces choses. Toute la nuit, on dort, on se réveille. On s'assied, on rêve. On prend son petit déjeuner. On part, on travaille en rêvant. On dit, cette route ici, je la vois à 10 bandes avant. Ouais. On arrive au travail, on rêve. 1 an, 2 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, le lugubre moissonneur, passant par là, te dit, meurs, vieux rêveur, il est trop tard pour toi. Nous devons rêver, mais il faut des rêves réalistes. Alléluia. On doit regarder à soi-même. Nous sommes des justes, alléluia. Nous devons manifester cette qualité de juste lorsque nous menons une vie de justice, c'est-à-dire lorsque nous menons la vie de Dieu. Et cette vie est menée au travers d'une vie de sanctification. Nous ne le dirons jamais. Ce que Dieu attend de vous, c'est que chacun de vous possède son corps dans la sainteté. Que chacun de vous s'éloigne de l'idolâtrie, de l'immoralité, de la corruption morale, spirituelle, tout ce que vous voulez, et que chacun de nous mène une vie que Dieu agrée. En vivant de cette manière, nous aurons atteint, mes amis, le niveau supérieur de juste, et là, nous deviendrons des bénédictions pour nos villes, pour nos cités, pour nos campagnes, pour nos pays, et pour le reste du monde. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à travers l'histoire des hommes et des femmes qui ont vécu cette qualité de juste et par qui, au travers de qui, Dieu a accompli de grandes choses sur cette terre. Alléluia. C'est par toi, mon frère et ma sœur, peu importe ta condition sociale, c'est par toi que Dieu voudrait assurer une protection à cette ville de Kinshasa. Alléluia. Eh oui, par toi, par chacun de nous. À l'époque d'Ézéchiel, nous l'avons vu la fois dernière, la ville avait sombré dans le chaos et dans l'anarchie spirituelle et morale. J'essaie un peu de vous décrire une petite radioscopie morale et spirituelle de cette époque-là. Je peux vous assurer, c'était une époque où il y avait des prophètes. Mais le prophète, le vrai Ézéchiel, par rapport à ces faux prophètes, il utilise un langage très dur en disant que ces prophètes, étaient semblables à des lions qui couraient après leur proie. Le peuple était devenu comme une proie qu'il manipulait à coups de prophéties, qu'il manipulait à coups de visions. Voyez-vous? Et la Bible ajoute même qu'ils ont fait ou qu'ils faisaient beaucoup de veuves. La Bible ne nous dit pas pour comment. Voyez? J'ai entendu dans certains milieux, à cause de fausses prophéties ou des histoires comme ça, il y a des gens qui sont morts. Voyez? On manipule les gens. C'était ça l'époque du prophète Ézéchiel. Non seulement les prophètes, nous l'avons vu, les sacrificateurs eux-mêmes, corrompus. Ils avaient perdu le sens du sacré. Personne ne pouvait faire la différence entre le pur et l'impur. C'était le chaos total, c'était l'obscurantisme spirituel, je dirais, plus obscur qu'autre chose. Les princes, ceux qui avaient l'autorité politique, corrompus. Voyez-vous? Donc, et le peuple lui-même, n'en parlons pas. Ça, c'est le verdict de la parole de Dieu. Ézéchiel nous en parle. Voyez-vous? Et dans tout ce chaos, dans toute cette anarchie, la Bible nous dit, la colère de Dieu a commencé à s'approcher petit à petit. La fureur de Dieu s'est levée contre son peuple. Mais Dieu, dans son amour, a voulu épargner, mes amis, Jérusalem à cette époque-là. C'est ainsi qu'il dit, je cherche un homme, alléluia, un homme juste qui se tienne devant moi, qui dresse une clôture pour protéger le peuple, alléluia. Mes amis, c'est à nous, c'est par nous, par notre vie de juste, que nous allons dresser une clôture autour de nos vies, autour de la vie de nos familles, alléluia, autour de la ville, le juste. Et Dieu ajoute, hélas, que je n'ai point trouvé personne. Dieu a vu la catastrophe s'approcher, sûrement, mais lentement, mais sûrement. Voyez-vous? Dieu a voulu épargner son peuple. Il a cherché dans tout Jérusalem, mes amis, un juste qui se tienne devant lui pour intercéder en faveur de la ville. Et Dieu arrive à la conclusion que je n'ai trouvé. Résultat, la fureur de Dieu s'est abattue contre Jérusalem. Et c'est ce qui est arrivé. Jérusalem a été détruite par les armées de Nebuchadnezzar, le royaume de Juda lui-même détruit, l'élite hébraïque, aussi bien intellectuelle, politique que religieuse, amenée en captivité à Babylone. Une captivité qui va durer 70 ans, 70 ans. Tout ça parce que Dieu n'a pas trouvé un seul homme juste qui se tienne devant lui afin de différer le jugement. Dieu n'en a pas trouvé, mes amis. À l'époque de Sodome et Gomorre, c'était la même chose. Dieu a vu que cette ville, Sodome s'égarait. Et dans son sillage, Gomorre, les gens s'est livrés à toutes sortes de pratiques terribles. Et notamment des pratiques contre nature, comme l'homosexualité.
Parce que dans certains milieux, on n'ose même plus citer ça. Voyez? Non.
C'est mon devoir, non seulement de vous encourager avec la parole de Dieu, il est aussi de mon devoir de vous avertir. La parole de Dieu a aussi pour fonction d'avertir. Quand bien même nous resterions une minorité, tant que Dieu sera avec nous, la vérité sera de notre côté. Et nous finirons par triompher. Car la vérité finit toujours par triompher. Que le monde fasse ce qu'il veut. Que le monde légalise le suicide assisté qu'il appelle euthanasie. Que le monde légalise ce qu'ils appellent soi-disant des mariages contre nature. Eh bien, tout cela un jour, et ça c'est la bonne nouvelle, lorsque Christ viendra, il écrasera ces systèmes du monde. Et nous serons avec lui. Alléluia. Et comme il est juste, il permettra à certaines personnes qui se seront moquées de nous d'avoir les yeux comme ça grandement ouverts. Ouais. Et pour une fois, Dieu leur donnera la capacité de voir même au-delà. Même si vous êtes cachés quelque part par ceux qui seront devant vous, vos détracteurs là, Dieu leur donnera des yeux au rayon infrarouge. Ils vous verront. Et vous les verrez aussi. Voyez. Et là, vous danserez. Oh, gloire au Seigneur. Et ils vont pleurer. Nous sommes du bon côté. Ce n'est pas du fanatisme. Non. Un fanatique, il ne sait pas de quoi il parle. Voilà. Un fanatique, il épouse des causes de manière aveugle. Il a son chef. Son chef regarde et dit, ah, ce décor, c'est bien, c'est cette couleur verte là. C'est bien, c'est la couleur verte. Ah oui, chef. Ah, c'est vert, hein. Et il ajoute même, ah mais c'est vert clair. Ça c'est un fanatique. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons pourquoi nous le suivons. Nous savons pourquoi il n'y a pas un autre. C'est lui et lui seul. Alléluia. Que Dieu nous donne de marcher à la suite des Vernon, à la suite de ceux qui nous ont précédés, qui ont prêché cette parole. Mes amis, en endurant toutes sortes de colères de la part de leurs détracteurs. Voyez. Parce que les gens ont été formés, et sont de plus en plus formatés, d'une certaine manière, par tous ces faux enseignements, ces doctrines abracadabrantesques, qui sont véhiculées partout. Et dès que ces choses-là, comme les gens le voient, ne se passent pas, oui, mais il n'y a pas onction. Il est en train de crier dans le désert. Oui, laissons-nous crier dans le désert. Un jour, c'est cette parole du désert là qui te jugera. Voyez-vous? Eh bien, avant de terminer, il y a tellement de choses à dire. Dieu a cherché quelqu'un, un juste, qui se tienne devant lui pour épargner la ville de Sodome. Quelqu'un s'est tenu en la personne d'Abraham. Mes amis, avant que Dieu juge quoi que ce soit, il partage son secret à ceux qui lui sont intimes. Voyez-vous? Voyez? Il partage son secret à ceux qui marchent avec lui. Cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Voyez-vous? Quand Abraham a pris conscience du danger que courait la ville de Sodome et de Gomorre, eh bien, il s'est tenu. Quand Dieu a dit, je vais détruire tout ça, Abraham s'est tenu d'un côté Dieu, de l'autre côté, Sodome. Il a intercédé. Je cherche un homme. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? D'abord 50 justes, 45, etc. À la fin, le Seigneur lui a dit, si je trouve 10 justes, combien?
10.
Sur une grande ville, c'est un peu de choses, hein. 10 justes! Voyez-vous, j'épargnerai la ville. Abraham a supplié. Malheureusement, il n'en a pas trouvé. Et le verdict est tombé. Et le feu de Dieu s'est abattu sur Sodome et Gomorre. Voyez-vous, la ville a été détruite. Mais avant de détruire, les anges chargés de l'exécution du jugement de Dieu ont dû faire sortir Lot, qui a été au bénéfice de l'intercession de son oncle. Je cherche un juste. Mon frère et ma sœur, tu as de la valeur. Ne sous-estime pas ton intercession, même si tu ne fais pas partie du ministère d'intercession comme les gens l'entendent. Car il y en a qui pensent qu'ils sont dotés d'un pouvoir exclusif d'organiser l'intercession. Nous sommes les intercesseurs de la ville.
Ah non, 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 c'est, non. Même si vous n'êtes pas reconnu comme intercesseur, vous n'êtes pas déclaré comme intercesseur, eh bien, en tant que juste, menant la vie de juste, votre intercession a du prix. Apprenez à vous tenir devant Dieu, entre Kinshasa et vous, entre la République démocratique du Congo et vous, et priez comme Abraham, car l'intercession du juste a beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Dieu peut épargner une ville entière à cause d'un juste, un homme qui vit, qui marche en juste, et qui passe son temps à intercéder, qui pleure, qui répand, qui épanche son cœur devant le Seigneur de gloire. Car quelquefois nous pensons qu'il faut beaucoup pour sauver une ville. Dieu n'a que faire du nombre. Avant de terminer, il y a cette histoire dans la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre des chroniques des rois d'Israël, où à un certain moment après une victoire sur les Philistins, David ordonne à son général Joas de compter, de faire le comptage, le dénombrement. C'était interdit. Hein. Peut-être qu'il voulait savoir, tiens, nous venons de remporter une grande victoire sur nos ennemis. Bien, je dois savoir à combien nous étions. Voyez, Joas refuse, dit, mais mon Seigneur, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais. Là, il a insisté. Finalement, Joas s'est plié aux injonctions du roi. Joas va compter. Il va comment exécuter l'ordre du roi et par conséquent, il va se mettre Dieu à dos. Il va pécher. Et la Bible nous dit la colère de Dieu. Eh bien, se leva contre David. Alléluia. Et Dieu décida de frapper fort. Et il frappa la ville. David eut peur. Il reconnut son erreur, voyez-vous. Et qu'est-ce que David a fait? David est allé à la montagne, à Morija. Il s'est tenu. Lui, le coupable, oui ou non? Le coupable. Lui, à cause de lui, la malédiction s'est abattue sur la ville et le jugement. Et puis il y a l'ange du jugement, n'est-ce pas? Mais quelqu'un va se placer entre les deux. Aravna ou Orna. Voyez-vous, cet homme-là, cet espace lui appartenait. David a compris la nécessité de faire le sacrifice. Orna va se tenir entre l'ange du jugement et David. Et il va jouer un rôle important parce que c'est grâce à lui que ce morceau de terre, là sur le mont Morija qui lui appartenait, que David va racheter, il va dresser l'autel, il va faire le sacrifice. Et Dieu va demander à l'ange de la mort de ne pas frapper. Quelqu'un s'est tenu entre, d'un côté, le coupable David, et de l'autre côté, l'ange du jugement. Et Dieu a entendu, alléluia. Mes amis, nous avons du prix. C'était un seul homme, voyez-vous, qui a entraîné David à faire cet acte de libation, de sacrifice, cette offrande, pour qu'enfin Dieu puisse arrêter ce jugement de destruction, arrêter la ruine qui s'était abattue sur le peuple d'Israël. Voyez-vous, mes amis, quelquefois nous pensons qu'il faut beaucoup de gens. Non, Kinshasa n'a pas besoin d'un million de justes, tant mieux s'il y en a. Je cherche, hein, si chacun de nous pouvait vivre cette qualité de juste aux yeux de Dieu, croyez-moi, les choses se passeraient autrement. Nous ne verrions pas de plus en plus des bars, des lieux de péché prospérer comme c'est le cas aujourd'hui. Voyez-vous, nous ne verrions pas des lieux de débauche, quand il y en a de plus en plus. Quand vous passez dans certains, même sur le boulevard la nuit, vous voyez toutes ces filles, ces prostituées qui racolent les hommes. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin qu'il y ait un million de justes dans cette ville de Kinshasa pour arrêter ce fléau que la prostitution, ce fléau que la corruption, ce fléau que le vol et toutes sortes de choses. Dieu a besoin d'un homme juste. Dieu a besoin d'une femme juste qui se tienne devant lui, qui dresse une clôture pour protéger la ville. Alléluia. Dieu veut envoyer la vraie joie sur Kinshasa. Qu'aucun orchestre, voyez-vous, j'ai appris, vous l'avez appris, l'autre chanteur qui devait chanter, il n'est pas venu. Mais la joie ne dépend pas des concerts. Hein. Je parle de la vraie joie. Oui ou non? Oui, oui. Il faut que nous le disions. Les gens vont danser. Oh, Tobina. Eh bien, Tout ça, ça peut apporter une certaine réjouissance. Mais ça, ça n'apportera jamais la vraie joie qui ne dépend pas de l'état dans lequel on se trouve, c'est-à-dire de l'état d'ivresse ou d'ébriété. Il y en a qui boivent jusqu'à ce qu'ils sombrent dans le coma éthylique. Ce n'est pas ça qui va apporter la joie. Le lendemain, quand vous le voyez, les yeux sont devenus rouges comme ceux d'une caille. Les lèvres toutes blanches, parce que toute la nuit, ils ont consommé le lotoco, l'alcool indigène, là. Non, la joie est là lorsque les justes sont heureux. Voulons-nous la paix pour Kinshasa? Voulons-nous la joie pour Kinshasa? Voulons-nous le bonheur pour le pays, pour le continent? Eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de justes et que ces justes-là puissent vivre leur qualité, leur dignité, leur vocation de justes. Alors, mes amis, Dieu fera de nous de bénédictions pour les autres. Nous pourrions être simplement un étudiant et jouer un grand rôle de protecteur pour la ville. Nous pouvons être simplement un employé, un fonctionnaire, peu importe, avoir une responsabilité politique ou pas, mais jouer un grand rôle. Nous arrêtons le mal. Et pour terminer, c'est Paul qui a dit, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ, alléluia. Nous répandons la saveur de Jésus. Nous répandons le parfum de Jésus. Quand vous êtes quelque part dans cette nécropole que le monde, voyez-vous, vous êtes la seule source de vie, la seule bonne odeur qui donne la vie, alléluia. Alors, puisqu'il en est ainsi, que le Seigneur nous aide à vivre pleinement notre qualité et notre vocation de juste, à ce moment-là, nous aurons atteint le niveau maximal et là, nous deviendrons de bénédiction pour les autres. Amen. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Nous voulons te remercier pour ta parole. Te remercier, Seigneur, de ce que en toi nous sommes devenus justes aux yeux de Dieu. Mais nous ne devons pas nous contenter simplement de cette qualité ou de cette dignité ou de cette vocation, Seigneur, d'être juste de par notre position en toi. Mais nous sommes appelés, Seigneur, à manifester cet état tout autour de nous. Car nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est par nous, ô Dieu, que tu arrêtes le mal. C'est par nous, ô Dieu, que tu arrêtes, Seigneur, la montée de l'iniquité. C'est par nous que tu protèges les uns et les autres. Oh, donne-nous d'être un parfum de bonne odeur. Dans ce monde où il y a de plus en plus, Seigneur, de sources qui répandent, des sources impures, qui répandent toutes sortes d'odeurs nauséabondes et putrides. Seigneur, aide-nous, dans ce monde où il y a toutes ces odeurs mauvaises, d'être, Seigneur, du parfum qui donne un sens à l'existence des uns et des autres. Merci, Jésus. Merci pour tout. Veuillez bénir également ce moment consacré, Seigneur, aux offrandes, aux dîmes, que là aussi nous saisissions cette occasion pour t'exprimer notre amour. Seigneur, notre qualité de juste, en te rendant ce qui te revient, en te donnant ce qui te revient. Merci, Jésus, de bénir ces services. Merci, Maître. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.